Bonjour à ceux et celles que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Je vous invite à reprendre ce chapitre 17 de l'évangile de Jean. Nous l'avons lu tout à l'heure, nous n'allons pas le relire maintenant. Mais combien il est précieux. Ce chapitre, à tort ou à raison, je ne sais pas, a été appelé la prière sacerdotale. C'est-à-dire vraiment cette prière que Jésus fait à l'intention des rachetés, à l'intention de ceux qui appartiennent à Dieu. Moi, je trouve extraordinaire le fait de me rendre compte que Jésus prie pour moi. Ça, c'est formidable. Jésus prie pour moi. Jésus a prié pour moi et Jésus continue de prier pour moi. Regardez ce verset dans l'Épître aux Romains, Romains 8, 34. Épître aux Romains, au chapitre 8. Et ce passage nous dit que Jésus est en train aujourd'hui de prier pour chacun de ceux qui ont placé leur confiance en Jésus. Le texte, le contexte commence comme ça en disant « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» C'est le verset 31. Parce qu'il a fait toutes choses pour nous. Et la fin du verset 34 dit que Christ est mort, bien plus il est ressuscité, et ça, nous le savons, nous croyons, Jésus-Christ est mort pour mes péchés, pour pouvoir me pardonner, pour que je puisse être réconcilié avec Dieu, et sa résurrection atteste de ces choses. Mais ça ne s'arrête pas là. Il dit bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Ça, c'est formidable. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Que fait Jésus, ce Jésus ressuscité, qui est aujourd'hui à la droite du Père? Que fait-il? Il prie. Il prie pour moi. Il prie pour toi. C'est formidable. Vous savez, quand on traverse des difficultés et que un chrétien s'approche de nous et nous dit « Je prie pour toi en ce moment. » Ça nous fait chaud au cœur. On dit « Ah ben, je ne suis pas tout seul là-dedans. Je sais qu'il y a des gens autour de moi qui ont de l'affection et qui, au-delà de la manière naturelle dont ils peuvent m'aider, me donner un coup de main concrètement, ils ont une démarche où ils mettent en mouvement la puissance de Dieu simplement en priant pour moi. Et c'est dans l'épître de Jacques que nous trouvons cet encouragement à prier les uns pour les autres. Et dit « La prière du juste » a une grande efficacité. La prière du juste a une grande efficacité. Et alors là, je me dis, mais alors, si la prière du juste a une grande efficacité, mais attends, mais quand c'est Jésus lui-même qui prie pour moi, lui le juste par excellence. Et dans l'évangile, il y a cet aveugle-né, hein, qui tient tête aux autorités religieuses, et qui dit est-ce que cet homme est pécheur? On lui dit avoue que Jésus est un pécheur. Il dit moi, s'il est un pécheur, je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que Dieu n'exauce pas les pécheurs, il exauce les justes. Et tout ce que je sais, c'est qu'avant j'étais aveugle et que maintenant je vois. Alors manifestement, cet homme qui m'a rendu la vue, Dieu le Père l'écoute, il l'exauce, parce que c'est le juste par excellence. Et alors moi, je suis vraiment touché dans ma relation à Dieu de savoir que Jésus-Christ est au ciel et qu'en ce moment, il prie pour moi. Je ne suis pas seul. Souvent, je me dis, ouais, dans ma vie avec le Seigneur, faut que j'y aille, quoi. Faut que je sois à la hauteur. J'ai tout reçu du Seigneur et maintenant, j'ai à mettre en œuvre. C'est vrai, c'est vrai. L'Épître de Pierre nous le dit. On l'a vu. Nous avons reçu tout ce qui contribue à la vie et à la piété, puis dit à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu la connaissance, etc. Mais dans cette vie chrétienne, dans ces combats, dans ces difficultés, je ne suis pas tout seul. J'ai Jésus qui prie pour moi. Il intercède pour nous. Moi, je suis reconnaissant vraiment à mon Sauveur, à mon Seigneur, que non seulement il a quitté cette gloire qu'il avait auprès du Père, il s'est fait homme, il s'est fait serviteur, il a souffert pour moi, il est mort pour moi. Mais ça ne s'arrête pas là. Il est mort. Bien plus, il est ressuscité, et bien plus, il intercède pour nous. Alors, quand je traverse des difficultés, quand je traverse des doutes, quand je traverse du découragement, de l'incertitude, quand je traverse aussi des tentations, avec un combat vis-à-vis de la tentation, quand j'ai l'impression d'être attaqué quelque part, qu'il est précieux de me rappeler que à ces moments précis, Jésus se tient auprès du Père et il prie le Père pour moi. Il intercède pour moi. Amen. C'est formidable. Il prie pour tous ceux qui sont à lui. Mais le texte nous dit également au verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Quand Jésus prie dans ce chapitre 17, alors qu'il est encore sur terre en présence des disciples, il prie pour ses disciples. Et il dit, c'est pour eux que je prie, c'est pas pour le monde. Et nous avons bien besoin de comprendre que c'est vraiment une prière de Jésus pour ceux qui croient en lui. Et il le dit au verset 9, il dit, c'est pour eux que je prie. Qui sont eux ? Le verset 8 le dit, hein. Ils ont reçu les paroles que tu m'as données, ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, ils ont cru que tu m'as envoyé. Voilà, ceux qui croient, il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Et après, il dit, c'est pas pour eux seulement que je prie, ceux présentement qui croient, mais encore pour ceux qui croiront plus tard, dans le futur, en moi, par leurs paroles. Et voilà, 2000 ans plus tard, eh bien, des personnes comme vous et moi qui, à un moment dans notre vie, rencontrons Jésus-Christ, croyons en lui, eh bien c'était pour nous que Jésus priait. Et c'est pour nous que Jésus prie encore aujourd'hui. Et Jésus prie encore aujourd'hui pour ceux qui, dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, dans vingt ans, se tourneront vers lui. Jésus priait pour moi avant que moi je connaisse le Seigneur Jésus. Formidable. Il priait pour moi depuis longtemps. Il préparait ça. Il intercédait pour moi. Alors, au travers du chapitre 17, j'aimerais que nous puissions un petit peu regarder ce que Jésus demande au Père pour vous et moi. Alors voilà ce que Jésus demande au Père. La première chose qu'il dit, c'est que je leur accorde la vie éternelle. Et ça, c'est une demande que Jésus fait parce que il est juste avant de mourir sur la croix pour que la dette que nous avons de notre péché puisse être vraiment porté par lui, pour que Jésus puisse se substituer et que le Père, j'ai envie de dire, valide ça. Qu'il dise, oui, Adrien, Jean-Denis, Nicole, Gilbert, et vous pouvez mettre votre nom, oui, ils peuvent être pardonnés. Parce que toi, mon fils, tu as donné ta vie pour eux. Et c'est la prière que Jésus dit. Il dit que je leur accorde la vie éternelle. Pour moi, cette prière, c'est vraiment très important parce que ça établit une chose fondamentale. C'est que je n'ai pas besoin de faire tous mes efforts pour pouvoir obtenir la vie éternelle par mes propres œuvres, en disant bon, va falloir vraiment que j'ai une vie nickel, et peut-être si j'ai une vie vraiment à peu près correcte, je finirai peut-être par pouvoir gagner, avoir la vie éternelle. Et Jésus, ce qu'il demande au Père, c'est non, que moi je puisse leur accorder. En toute simplicité, moi, Jésus, qui suis mort pour eux, et simplement à ceux qui vont croire en moi, placer leur confiance en moi, eh bien c'est moi qui leur accorde cette vie éternelle. Ils ne l'obtiennent pas par leurs propres efforts, par leurs propres mérites, mais parce que moi j'ai payé pour eux. Et ça, c'est formidable, parce que dans ma vie chrétienne, je n'ai pas ce fardeau de me dire, est-ce que à la fin je vais être sauvé, est-ce qu'à la fin j'aurai fait suffisamment bien. Mais qui est capable de faire suffisamment bien pour mériter? Mais personne. Et voilà pourquoi Jésus a dit, moi ce que je te demande, c'est que je leur accorde la vie éternelle. Et Dieu a dit oui. Oui, j'accepte ce sacrifice, j'accepte que tu te substitues, et j'accepte que par la simple foi en toi, il puisse entrer dans la vie éternelle. On dit c'est trop simple pour avoir la vie éternelle, c'est trop simple. Alors il suffit, alors ça y est, c'est trop simple, ça. Il suffit de croire en Jésus et puis bam, t'as la vie éternelle. Tellement simple qu'il y en a peu qui empruntent le chemin. Parce qu'il s'agit par contre de croire de manière authentique, de placer sa foi en Jésus, ce qui signifie comprendre qui il est, comprendre pourquoi il est venu. Il est venu parce que j'ai un problème avec Dieu, ce problème c'est mon péché. Déjà, comprendre, accepter que j'ai un problème avec Dieu, qui est le péché. Me tourner vers Jésus, c'est me repentir. Faire un demi-tour, le prendre pour maître, le prendre pour seigneur, le prendre pour berger, c'est pas peu de choses. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple que de gagner soi-même son ciel, hein. Parce que c'est pas possible. Merci Seigneur parce qu'il a prié pour que ce soit lui qui puisse m'accorder la vie éternelle. Il me l'accorde tout simplement. Il dit, tu es venu à moi, eh bien, tu entres dans la vie éternelle, en toute simplicité. Et quel bonheur, quelle assurance de pouvoir vivre en sachant que je suis sauvé parce que Jésus a payé pour moi. Or bien sûr, mon cœur a envie de plaire à Jésus. Mon cœur a envie de vivre. S'il est passé par la repentance, il n'a plus envie de vivre selon le péché. Mais il y a des chutes. Et le Seigneur est fidèle pour pardonner ces chutes lorsque je les lui apporte. Amen. Ça, c'est la première chose. La seconde chose que Jésus demande, c'est qu'il te connaisse, toi et moi. C'est le verset 3. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est quoi la vie éternelle? C'est passer son temps avec Dieu. Alors, quand on passe du temps avec Dieu, on le connaît de mieux en mieux. Vous savez, c'est un petit peu comme quand un homme et une femme décident de passer leur vie ensemble et de se marier. Ils disent, ouais, moi, on va se marier pour vivre ensemble, avoir cette vie commune jusqu'au bout. Et quand on a cette proximité, eh bien, on se connaît de mieux en mieux. Alors, parfois, le fait de connaître mieux l'autre nous émerveille. On dit, ah, mais ça, c'est un côté de ton caractère que je connaissais pas, que je viens de découvrir, et c'est pas mal aussi. Des fois, on dit, ah, ça, c'est un côté de ton caractère que je connaissais pas. Bon, on va faire avec, hein. Très bien, ça a changé, hein. Mais même en passant 40 ans auprès d'une personne, on la connaît vraiment bien, mais est-ce qu'on la connaît vraiment totalement? Alors imaginez Dieu. Ce Dieu infini, est-ce que nous aurons assez de l'éternité pour faire le tour de Dieu, pour le connaître de manière profonde et intime? Non, c'est pour ça que ça dure. Dieu est infini. Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Moi, je suis touché que Jésus ait prié pour que je puisse connaître le Père. C'est-à-dire, Jésus a prié pour que ce Dieu créateur tout-puissant accepte de se rendre proche de moi, accepte de se laisser connaître de manière personnelle, de manière intime. Ce Créateur, Dieu Tout-Puissant, me laisse entrer dans sa présence en toute simplicité pour qu'on puisse apprendre à se connaître. Bon, lui, il me connaît déjà bien. Mais pour que moi, je puisse apprendre à le connaître. Et il se laisse connaître. Il s'approche pour que je le connaisse de plus en plus, de mieux en mieux. Et connaître Dieu, c'est quelque chose de formidable et d'enthousiasmant, parce que ça change la perspective. Hein. Nous, on connaît les choses de ce monde, on connaît les caractères de ce monde, on connaît les gens de ce monde, on se connaît soi-même. Mais Dieu est tout autre. Tout autre dans son caractère, dans sa nature, dans ses œuvres. Il est tout autre avec gloire. Et pouvoir connaître quelqu'un de formidable et d'extraordinaire, quel privilège. Des fois, vous savez, il y a les grands de ce monde, telle star, tel chanteur, tel truc. Et alors, quand vous avez pu passer une soirée en leur présence, vous en parlez encore pendant 5 ans. Oui, le jour où j'ai rencontré Johnny, on a parlé, hein. C'est bien. Le jour où Eh bien, tu vois, tu as le Dieu tout-puissant qui se laisse connaître et qui vient te parler et qui t'écoute dans la prière et qui tisse avec toi une relation d'amour, une relation intime. Connaître le Père et connaître Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et alors ? À cause de la prière de Jésus qui a prié pour que je puisse connaître Dieu, Dieu est à l'œuvre. Chaque jour, Dieu est à l'œuvre pour que je le connaisse mieux. Et nous, on vit notre vie comme ça, mais on oublie que Jésus est en train de prier. Et Jésus est en train de prier en disant « Père, je te prie pour Adrien, là, en ce moment, il a besoin de connaître un petit peu plus de toi. » Il aurait besoin de connaître telle facette de ta personne, de ton caractère. Ça manque à sa vie. Ça lui manque, Adrien, de ne pas te connaître sous ce jour-là. Père, je te prie pour qu'il puisse te connaître sous ce jour-là. Il en a besoin dans sa vie. Et Dieu, alors, œuvre, est à l'œuvre pour que je puisse le connaître dans cette dimension où je ne le connais pas encore bien et qui manque à ma vie. Ça, c'est pas formidable ? Que Jésus est en train de prier pour qu'on puisse connaître Dieu de telle ou telle manière, sous tel ou tel regard, parce que ça nous manque, eh bien, Dieu va travailler, va œuvrer. Parce que Jésus a prié pour ça, pour qu'on puisse le connaître. Troisième chose que Jésus demande, c'est garde-les. Garde-les. Père Saint, verset 11, garde-les. Jésus a demandé pour nous la protection, la sécurité. Garde-les. Je suis tellement reconnaissant de ce que Jésus lui-même a demandé au Père de me garder. Et il a demandé pour moi et pour tous ceux qui croient en lui et pour tous ceux qui croiront en lui. Et il y a cette protection, cette sécurité toute particulière qui suit l'existence de ceux qui croiront puis qui croient en Jésus. Alors vous allez dire, mais il arrive aussi des malheurs à ceux qui croient en Jésus. Il arrive aussi des choses dramatiques et des épreuves. Oui ? Le fait que Dieu nous garde, déjà, il est vrai, consiste à sa main dans notre vie qui nous protège et qui nous garde, et nous avons beaucoup de mal à mesurer les épreuves et les difficultés, les drames que la grâce de Dieu, à cause de la prière de Jésus, nous a épargnés. Ça, peut-être nous le mesurerons au ciel. Qu'est-ce qui nous a été épargné par la seule grâce de Dieu? Mais le fait d'être gardé touche le fait de garder notre âme, de garder notre cœur. Ça n'exclut pas des épreuves. Mais ailleurs, le texte biblique nous dit qu'il a la puissance de garder notre âme. Il a la puissance de garder notre âme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les circonstances même douloureuses et dramatiques que je peux traverser, à l'intérieur de ces circonstances et de ces drames, la puissance de Dieu s'exerce pour garder mon âme, mon cœur au sein de ces épreuves, au sein de ces souffrances. Comment mieux le comprendre? Vous savez, parfois on se dit, on voit des gens qui traversent des épreuves et des souffrances ou des choses, et puis on constate dans leur vie une sorte d'effondrement psychologique, une sorte d'effondrement. Et on dit, ça les a détruits. Voilà. On dit, telle chose, ça l'a détruit. Ça l'a vaincu. Ça a eu raison de lui. Vous comprenez un petit peu cette notion de dire, je vais traverser telle chose et cette chose va faire de moi une ruine. Ça me détruit. Eh bien, nous avons cette promesse du Seigneur parce que Jésus a prié pour que ce que nous vivions n'ait pas la puissance de nous détruire. Comprenez la différence ? Ce que nous vivons, même de déficit, de douloureux, de dramatique, nous avons cette promesse que Dieu est à l'œuvre dans sa puissance pour que ça n'ait pas la capacité de nous briser définitivement, de nous détruire, de nous anéantir. Et nous avons cette promesse que Dieu est fidèle. Au travers de l'épreuve et de la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Quand Jésus a dit « garde-les », il s'agit bien de garder notre âme, notre cœur, notre intégrité, je dirais, d'esprit en lui. Pour que même lorsque le Seigneur permet des choses difficiles dans notre vie, eh bien, ça n'est pas la capacité de nous détruire. Ça fait mal. Ça nous touche. Ça fait verser des larmes. Et il y a sans doute tout un moment de remise en question, comme nous le montre le livre de Job. Job qui traverse ce type d'épreuve, ce type de choses. Mais, comme Job, qui traverse cette tourmente, la puissance de Dieu garde son âme. Alors moi, je trouve que c'est formidable parce que je sais que j'ai un Seigneur qui me garde. De quoi me garde-t-il ? J'ai du mal parfois à l'évaluer. Et je ne sais pas quels sont les drames et les épreuves qu'il m'a épargnées à cause de la prière de Jésus. Père, garde-les. Mais surtout, ce que je sais, c'est que il a cette puissance de garder mon intégrité d'âme et d'esprit pour que ce que je vis ne m'anéantisse pas, ne me détruise pas. Ça n'a pas la force et la capacité de me détruire. Parce que la main du Seigneur me tient. Amen. Alors, en traversant ce que nous pouvons traverser dans la vie, dans les choses difficiles, qu'il est bon de savoir que à ce moment-là, Jésus est au ciel en train de prier à la droite du Père. Jésus intercède pour nous. Je vis un deuil, je vis un licenciement, je vis un divorce, je vis des tas de choses douloureuses, difficiles. À ce moment-là, dans la tourmente, où est Jésus et que fait-il ? Il est à la droite du Père et il intercède pour moi. Il prie pour moi et il dit au Père, Père, garde-le en ton nom. Garde-le. Amen. Une autre chose que Jésus demande, quatrième, c'est qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Ça, c'est une chose qui revient beaucoup dans la bouche de Jésus. Le Seigneur veut que les siens trouvent en eux cette joie parfaite qui est celle du Seigneur Jésus. Il veut nous la transmettre, il veut nous la donner. Et moi, je suis vraiment touché de me rendre compte que dans les moments où je ne suis pas en forme, dans les moments où j'ai le cafard, dans les moments où il me manque peut-être cette joie à cause de telle ou telle chose, que fait Jésus ? Il est au ciel, auprès du Père, et il intercède pour moi. Et il prie le Père, il dit, « Père, je te prie pour Adrien parce que je te prie pour qu'il puisse avoir en lui ma joie parfaite. » Tu vois, en ce moment, ce qu'il traverse, etc. Eh bien, Père, je te prie pour qu'Adrien puisse avoir en lui cette joie parfaite qui est la mienne. et le Père œuvre pour m'amener à cette joie parfaite qui est celle de Jésus. C'est formidable de savoir que Jésus, en ce moment, est en train de prier pour nous, pour que nous ayons, pour que nous trouvions, pour que nous parvenions à cette joie parfaite en nous-mêmes qui est la sienne. Merci. Ensuite, il dit « Préserve-les du malin ». Oui, oui, il y a des attaques. Oui, il y a des tentations. Mais Jésus a prié pour que nous puissions être préservés de l'action de Satan. D'abord, ça fait référence, et il ne faut pas le nier, à toute l'action occulte qui peut exister de la part de Satan. Toute l'action de sorcellerie, de magie, démoniaque, etc. Nous, ici en Occident, on n'est pas trop coutumiers de ces choses-là. En tout cas, on ne les appelle pas comme ça. Mais ce sont des réalités spirituelles. Ce sont des réalités spirituelles. Mais nous avons cette prière de Jésus qui dit « Préserve-les du malin ». Et nous avons cette réponse de Dieu qui nous protège, qui nous préserve de toute action satanique. Et qui le fera de manière adaptée au moment opportun. Et puis tout simplement, des fois, comme dit un des auteurs bibliques, Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui pourra dévorer. Et bien dans cette action de l'ennemi de nos âmes pour nous entraîner à quitter la sainteté, à quitter la communion avec le Père, à quitter le plan de Dieu pour notre vie, eh bien nous avons Dieu qui agit pour nous préserver du malin. Et nous pouvons avoir cette certitude que Satan ne peut rien contre nous, à moins que volontairement nous lui laissions un accès. Hein? Nous sommes avertis à cet égard, ne donnez pas accès au diable. On peut choisir à un moment de lui laisser un accès. Mais par contre, il y a cette prière de Jésus, préserve-les du malin. Et quand bien même nous pourrions laisser à un moment un accès à Satan, Dieu agit pour nous libérer, pour nous en dépêtrer et pour que sa victoire émane et règne dans notre vie. Amen. Alors je suis heureux de savoir qu'au moment où il y a la tentation, au moment où, je ne sais pas moi, j'ai un péché particulier dans ma vie dont les racines surgissent là et veulent prendre le contrôle, je sais qu'à ce moment-là, Jésus, où est-il, que fait-il ? Il est auprès du Père et il intercède pour moi. Et il dit, Père, tu vois Adrien là qui, dans ses pensées là, il y a les racines de tel péché qui, oh ça fourmille. Père, je te prie de le préserver du mal. Jésus prie pour moi au moment même de la tentation. Amen. Je ne suis pas tout seul dans le combat spirituel. Oui, il y a un combat. Mais je ne suis pas tout seul. Jésus est en train de prier pour moi. À ce moment-là, il intercède pour moi. Ensuite, il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Oui, Jésus veut nous sanctifier, veut nous nettoyer, veut nous laver. Et il a demandé au Père de le faire. Par sa parole, par les Écritures, par la Bible, alors Dieu est actif à cet égard. Le Père est actif pour me nettoyer. Et je sais qu'il y a Jésus qui prie. Il prie en disant, Père, tu vois, en ce moment, Adrien, il aurait bien besoin d'être nettoyé de telles choses dans sa vie. Ça fait un moment que ça traîne. Père, je te prie pour que tu le sanctifies, je te prie pour que tu le nettoies par ta parole. Dieu va le faire. Dieu va être actif dans ce nettoyage. Et peut-être il y a des choses comme ça dans votre vie. Eh bien, vous savez que Jésus est en train de prier pour vous, pour que le Seigneur vous nettoie, pour que le Père vous nettoie, et qu'il le fait par sa parole. Et dans sa parole, je sais que Dieu va être à l'œuvre pour que je lise, pour que j'entende tel ou tel passage de l'Écriture dont j'ai besoin. Et le Seigneur va faire en sorte que je les trouve. Le Seigneur va faire en sorte que je tombe dessus parce que j'en ai besoin pour ma vie. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alors oui, Dieu va être à l'action au travers de sa parole qui est diffusée de différentes manières. Hein. Mais pour que cette parole, la parole adaptée, parvienne jusqu'à mon oreille, parvienne jusqu'à mon cœur, pour que ce travail de nettoyage puisse se faire. Merci Seigneur, parce que ce nettoyage, c'est pas juste moi qui dois prendre la parole et puis tâcher de discerner où est-ce qu'il y a besoin d'être nettoyé. C'est l'œuvre du Père, et il le fait. Une autre chose importante, il dit que tous soient parfaitement un. Ça revient à de nombreuses reprises dans notre chapitre. Il y a une insistance toute particulière dans la prière de Jésus pour que nous soyons tous parfaitement un. C'est le contraire de la division, c'est le contraire du conflit, et c'est peut-être l'un des enjeux les plus difficiles pour nous chrétiens. De ne pas être en conflit les uns avec les autres. De ne pas nous insupporter les uns les autres. Nous agacer les uns les autres. Et puis avec cette distance qui vient, on met des barrières. Peut-être on fait des clans. Jésus savait ces choses et c'est pour ça qu'il intercède et qu'il prie le Père pour que nous soyons tous parfaitement un. Et je sais que quand il y a un frère, une sœur qui m'agace, qui... Et là, je dis, celui-là ou celle-là commence à me chauffer les oreilles, et puis ça m'énerve. Que fait Jésus ? Où est Jésus ? Il est auprès du Père, et à ce moment-là, il est en train de prier pour moi. Il dit, Père, tu vois, Adrien, là, il commence à s'échauffer l'esprit, là, avec un tel, une telle dans l'église. Pas bon. Je te prie pour que tu lui donnes la réconciliation. Je te prie pour que tu mettes l'amour dans son cœur, pour qu'il ne se laisse pas gagner par le conflit, par la division, mais qu'il puisse être tous parfaitement un. Et quand nous avons ces distances, ces conflits, ces choses qui font irruption dans nos relations entre frères et sœurs, nous savons que à ce moment-là, Jésus est en train d'intercéder pour nous. Il intercède pour moi, puis il intercède aussi pour l'autre, hein, en face. Il prie pour les deux. Eh, mais on n'est pas seul. C'est quand même formidable, non ? Jésus est en train de prier pour ces choses-là. Que là où je suis, ils soient aussi avec moi. Moi en eux et toi en moi. On va passer un peu rapidement, mais nous avons déjà cette certitude. Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Nous serons non seulement dans la vie éternelle, qu'il leur accorde la vie éternelle, mais dans la présence même de Christ. Amen. Avec lui. Ça, c'est formidable. Mais c'est vrai aussi pour aujourd'hui, pour maintenant. Moi en eux et toi en moi. Alors, c'est un petit peu plus compliqué. Ça nous renvoie à l'Épître aux Éphésiens. Hein, l'Épître aux Éphésiens nous dit que Christ s'est assis dans les lieux célestes, à la droite du Père, Et l'Épître aux Éphésiens nous dit que nous sommes morts avec Christ, il nous a ressuscités avec lui et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire qu'il y a cette position spirituelle d'être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On a bien les deux pieds sur terre, mais notre position spirituelle est d'être assis dans les lieux célestes avec Christ et en Christ. Bon, c'est un petit peu plus complexe, on en a déjà parlé, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est tellement important. Il y a un petit ouvrage de Watchman Nee qui l'explique bien. Être assis, marcher, tenir ferme. Nous, souvent, dans notre vie chrétienne, on veut marcher et tenir ferme pour pouvoir nous asseoir en Christ. Il dit là, vous mettez la charrue avant les bœufs. Si vous cherchez à marcher et tenir ferme pour enfin vous asseoir en Christ, vous n'y arriverez pas. Parce qu'il s'agit de commencer par s'asseoir en Jésus-Christ. D'abord, tu t'assois en lui. Parce que tu t'assois en lui, alors là, tu peux te lever, marcher et tenir ferme. Dans notre journée, dans notre semaine, frères et sœurs, sachons que Jésus a prié pour que nous soyons là où il est aussi. Il est assis dans les lieux célestes. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Et à partir de cette position-là, parce que nous sommes assis en lui, avec lui, alors on peut se lever et marcher dans notre journée, ici-bas sur terre. Je n'en dis pas plus. Il y a peut-être aussi le fait que moi en eux, toi en moi, Jésus-Christ vient vivre en nous. Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà, il y a vraiment cette union que Jésus a demandé au Père, et qui se réalise. Je ne suis pas tout seul. Je peux vivre ma vie chrétienne parce que Jésus-Christ peut vivre en moi. Amen. Qu'il voit ma gloire. Ça, j'aime ça. Ça me renvoie à ce qu'on a lu il y a quelque temps lorsque... Comment s'appelle-t-il bon, il est mort et puis il est ressuscité. Aidez-moi là. Lazare. Ouais, c'est ça. Lazare. Lorsque Lazare est mort, et puis il y a Marie et Marthe qui pleurent, etc. Que leur dit Jésus? Il dit, mais il va ressusciter. Ton frère, il va vivre. Oui, je sais qu'il ressuscitera là-haut. Et Jésus leur dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Voilà, il dit ça. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Eh bien, Jésus a demandé au Père que nous puissions voir sa gloire. Il est vrai, sa gloire à venir, sa gloire pleine, entière au ciel, ou sa gloire quand il reviendra. Mais déjà aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours, voir la gloire de Jésus qui se manifeste dans ma vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous voyez, ces instants de vie où on traverse des choses de l'existence, quelles qu'elles soient, et puis à un moment, on se retourne, parce que tout d'un coup, on comprend. Tout d'un coup, on se retourne et on fait « Waouh! Ah ouais! » Ah, pas mal, Seigneur. On est ébahi de dire, je comprenais pas trop pourquoi tu me faisais passer, pourquoi tu as permis ça, je ne sais pas trop pourquoi. Et puis, il y a ces moments où le Seigneur nous ouvre les yeux, nous montre la réponse, nous montre pourquoi, et on voit la gloire de Dieu. On dit, pas mal joué. Ah, c'est... Ah là, là, Seigneur, tu m'as surpris, tu m'as... Waouh! Ah ouais, quand même. Et on voit la gloire de Jésus dans notre vie. Oui, le Seigneur a prié pour que le Père nous permette ces instants de vie, des moments de notre vie où on voit la gloire de Jésus dans notre existence, dans notre vie. Amen. Et puis nous terminons. Que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Ça, c'est aussi une prière de Jésus. Il a prié pour que je me sente aimé du Père, pour que je sache que je suis précieux pour lui. Et il y a des moments où nous pouvons traverser des moments de vie où nous ne nous sentons pas aimés, où on se sent seul. Peut-être on s'aime même plus soi-même. Et bien là, il y a Jésus qui est au ciel et qui prie, qui intercède pour nous et qui dit: Père, agis dans son cœur pour qu'il ait ton amour en lui. Cet amour dont tu m'as aimé, qu'il sache que c'est ce même amour dont tu l'aimes. Et puis cet amour du Père que nous puissions reproduire. Cet amour du Père que nous puissions, dont nous puissions aimer les autres. Moi, je suis content que, vraiment, quand je dois aimer certains d'entre vous ici, hein, je suis content que Jésus soit au ciel et prie. Il dit: Oh Père, tu vois Adrien qui a besoin d'aimer un tel là. Je te prie pour qu'il y ait ton amour en lui, parce que sinon il ne va pas y arriver. Non, vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Cette difficulté d'aimer comme Jésus a aimé autour de nous, que ce soit dans l'église, que ce soit ailleurs dans l'église, hein. Il a dit d'aimer même son ennemi. Oui. Mais comment faire? Eh bien, je sais qu'à ce moment-là, quand je dois être dans cette relation juste, hein, l'amour, c'est cette relation juste qui construit au lieu de détruire, qui ne s'abstient pas de faire du bien, eh bien, je sais que Jésus prie pour moi. Amen. Alors, prions. Seigneur, nous sommes vraiment reconnaissants de savoir que tu es auprès du Père et que tu es en train de prier pour nous. Merci, ça nous encourage, vraiment, de savoir que tu es actif pour nous. Tu pries pour nous, ça nous touche, ça nous encourage. Nous sommes émus, Seigneur, de ce que ton amour pour nous se traduit dans cette prière, dans cette intercession. Tu regardes notre vie, tu regardes ce que nous traversons, tu vois là où nous avons besoin d'aide, et cette aide, tu la portes en priant pour nous. Merci parce que tu es ce juste par excellence, dont la prière est entendue du Père, est exaucée. Merci Seigneur, et loué sois-tu pour cela. Et aide-nous à nous rappeler, à bien prendre conscience que dans tel ou tel moment que nous vivons, à ce moment-là, tu es au ciel et tu pries pour nous, pour notre situation précise, afin que le Père agisse. Merci pour cela. Et nous voulons louer le Père, le remercier, et c'est par ton nom que nous le faisons. Amen.